CJSO 101.7. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, hey, bonne rentrée radio tout le monde. Content d'en être avec cette émission tous les mardis. On va, au cours des 50 prochaines minutes, s'intéresser au monde de l'éducation, chez nous, là, dans la région. Mes invités, la directrice générale par intérim du cégep de Sorel-Tracy, Catherine Boulanger, le directeur général du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, Christian Lacourse, le député de Richelieu à l'Assemblée nationale, Jean-Bernard Raymond, le propriétaire d'Autobus Bibeau, Jasmin Bibeau, la directrice générale de l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation, Martine Simard, le propriétaire de Photos Repensées, Simon Ménard, la présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu, Lisette Trépanier, la coordonnatrice de Centraide Opération Septembre au Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, Sylvie Ouellette, le président du syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de Sorel-Tracy, Louis-Philippe Paulet, et une maman qui a fait le choix d'enseigner à la maison à ses enfants, Stéphanie Laplante. La Tribune, de retour après la pause.
La MRC Pierre de Sorel est fière de vous convier dans le cadre de son plan d'action en immigration à la présentation du court-métrage « La fin de l'immigration » le 7 septembre prochain à 17h30 au Centre culturel de Sorel-Tracy, situé au 35 Place des Loisirs. Cette présentation sera suivie de discussions et de débats entre les participants dans le but d'échanger leurs impressions sur leur récent visionnement. Vous êtes attendus en grand nombre à cette activité gratuite qui vise à élargir nos horizons face aux réalités actuelles. La MRC Pierre de Sorel, vivant ici.
Max!
T'es où?
JF! J'suis un peu dans le trou, là.
Je vois bien ça. Pourquoi tu changes pas pour Ebox? Ils ont de l'Internet 25 Mbps par seconde à 29,95 par mois. Ça ferait pas trop dans ton budget.
29,95? Wow! Ça ferait du bien, ça.
Moi, je me suis abonné en ligne au ebox.ca. C'est super simple.
OK. Garde, c'est sûr que je fais ça, mais peux-tu juste m'aider à sortir d'ici? JF? JF?
L'Internet à 29,95 par mois. C'est juste ce qu'il te faut. Détail au ebox.ca pour un temps limité.
Avec Denis Marion, tous les jeudis midi, tête première.
Ici Denis Marion. Plongez avec moi dans l'actualité, avec les gens qui la font, mais aussi avec celles et ceux qui l'observent et qui l'analysent. Pour débattre, pour échanger et pour apprendre. Faisons-le ensemble chaque semaine, le jeudi midi, à CJSO 101.7.
Tête première, l'émission où des débats font avancer les choses. Denis Marion parle des vrais sujets et pose les bonnes questions. Tête première, tous les jeudis midi à CJSO. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse au monde de l'éducation chez nous ce midi à La Tribune. Je vais parler pour briser la glace à la directrice générale par intérim du cégep de Sorel-Tracy, Catherine Boulanger. Bonjour, Madame Boulanger.
Bonjour, Monsieur Rochon. Vous allez bien?
Je vais très bien. Et vous, comment allez-vous?
Je vais bien.
Bon, fait pas trop chaud au cégep?
C'est encore supportable.
Bon. Le conseil d'administration vous a nommé début août pour pallier à l'absence de Madame Desmarais. Vous ne faites pas au cégep votre arrivée, vous y étiez déjà directrice des études.
J'y étais déjà, tout à fait. Donc, j'ai amorcé un mandat à la direction des études en juin 2022. Puis là, j'assume l'intérim de la direction générale là, en l'absence de Mme Desmarais.
C'est un intérim dont on ne connaît pas la durée?
Non, on ne connaît pas la durée.
Est-ce que ça vous permet néanmoins d'imprimer, comment dirais-je, votre personnalité dans ces fonctions?
Je vais y mettre tout mon cœur, même dans un contexte de peut-être courte échéance. Je connais bien la culture du collège, les gens me connaissent également. Donc, mon mandat, là, c'est de faire en sorte que... le personnel puisse vivre harmonieusement là, avec la communauté étudiante. Là.
Parlons donc chiffres, Mme Boulanger. Combien d'étudiants inscrits à la rentrée là, qu'on vient de vivre, 2023?
En fait, en 2023, nous avons 525 nouveaux étudiants, donc c'est 22 de plus que l'année passée. Au total, là, si on intègre également les étudiants qui étaient avec nous par les années passées, c'est 1041 étudiants.
Alors, il y a plus d'étudiants à la rentrée 2023 qu'il y en avait à la rentrée 2022?
Tout à fait.
OK.
C'est un total de 15 étudiants de plus. Et de si, l'an passé.
D'accord. Si on recule encore plus que ça dans le temps, qu'est-ce que ça dit? Ça donne quoi la courbe là, d'inscription?
Dans nos 5 dernières années, là, c'est environ 1020 personnes étudiantes que nous recevions par année. C'est une moyenne là, des 5 dernières années. Là. En contexte de pandémie, on avait eu environ 128 étudiants en 2021. On en a eu 1030 en 2020. Donc, cette année, on est quand même là, un peu au-dessus de ce à quoi nous nous attendions.
Quels sont les,
bien heureux.
Ben oui, j'imagine ça. Quels sont les programmes les plus et les moins populaires?
Donc, nos programmes préuniversitaires sont ceux qui attirent le plus grand nombre de personnes étudiantes. Donc, notre programme de sciences de la nature et notre programme de sciences humaines. C'est des programmes, ces deux programmes-là ont été actualisés l'année dernière. Donc, des nouveaux contenus, on tente de faire en sorte là, que nos étudiants soient vraiment à l'affût des nouvelles compétences qui seront déployées prochainement dans les universités. Notre programme d'éducation spécialisée aussi est un programme qui a été actualisé. Donc, la nouvelle cohorte amorce un nouveau programme là à partir de l'automne 22. Donc, c'est aussi un programme qui a attiré quand même un bon nombre de personnes étudiantes. Cette année, on a notre programme de génie électrique aussi qui s'est vu là avec une belle cohorte de 28 personnes étudiantes. C'est quand même... C'est une belle augmentation comparativement aux années passées, sans oublier notre programme d'informatique aussi là, qui se retrouve avec un bon nombre d'étudiants et d'étudiantes en classe là, jour 1.
Alors, il ne se trouve pas des programmes dont la pérennité serait menacée par le trop petit nombre d'inscriptions?
On a des programmes à plus petits effectifs étudiants, effectivement. On fait en sorte de pouvoir promouvoir ces programmes-là. Des fois, c'est une profession qui est méconnue. Je pense entre autres là, au nouveau programme de technique pharmacie, donc qui en est à sa troisième année d'implantation. C'est une nouvelle profession. Donc, c'est moins connu. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des cohortes qui sont peut-être un peu plus petites que ce à quoi on s'attendait. Donc, on va tenter de faire des activités de promotion pour faire connaître cette nouvelle technique. Notre programme aussi, environnement, hygiène et santé, sécurité au travail, est un programme là, pour lequel il y a peut-être un moins grand nombre de personnes étudiantes, mais encore là, c'est un programme qui n'est pas offert dans l'ensemble des collèges. Hein. Seulement 4 collèges offrent ce diplôme d'études collégiales. Donc, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir susciter l'intérêt pour des programmes qui sont moins bien connus. Là.
Je comprends. Hey, je dois déjà vous remercier. C'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup, Catherine Boulanger. On aura sans doute l'occasion de se reparler à nouveau. Merci.
Super. Bonne émission.
Merci. On passe du cégep au centre de services scolaires de Sorel-Tracy où nous attend son directeur général, Christian Lacourse. Bonjour, M. Lacourse.
Bonjour, M. Rochon.
Bonjour. Vos écoles et vos établissements ont accueilli combien d'élèves à la rentrée, là, il y a quelques jours?
Alors, cette année, on est rendu à 5400 élèves, là, tous secteurs confondus, que ce soit le primaire, secondaire, formation générale aux adultes ou notre secteur de la formation professionnelle.
Ça, est-ce que c'est davantage ou moins qu'en 2022?
C'est une légère hausse. Là, on n'est pas dans un peu comme plusieurs collègues à Montérégie où on a des grandes augmentations de clientèle. Nous autres, on augmente un petit peu à chaque année, là, peut-être une dizaine d'élèves par année.
La courbe de la population étudiante sur une plus longue période, que dit-elle? Si on regarde plus loin dans le rétroviseur, puis on compare avec maintenant.
Toujours un peu le même portrait, là, on est un peu comme un électrogramme, là, on est plus sur une courbe qui augmente graduellement, mais sans de gros pics, là, nécessairement. C'est sûr qu'on suit de près tous les mouvements, là, de développement urbain qu'il pourrait avoir dans la région, là, dans la grande MRC de Pierre de Sorel, là. Mais présentement, les statistiques qu'on a du ministère de l'Éducation, sont plus à l'effet qu'on augmente tranquillement là, la clientèle.
Vous dites suivre de près tous les développements immobiliers. J'allais justement vous amener là. Moi, je vois naître de nouveaux quartiers à Saint-Roch de Richelieu. Est-ce que l'agrandissement de l'école primaire de la localité qu'on inaugurait en 2018 pourrait ne plus suffire?
Écoutez, selon nos prévisions, présentement, ce qu'on a comme agrandissement est suffisant. Par contre, comme je vous disais, là, on suit de près avec la municipalité le nombre de portes qui prévoit. Et puis, en même temps, le ministère, selon le nombre de portes prévues, calcule un ratio. C'est pas toutes nécessairement les maisons qui vont avoir des jeunes enfants en partant. Donc, pour l'instant, là, nos prévisions sont correctes et nos espaces sont corrects. Je ne vous dirais pas que c'est pas serré, mais de façon générale, ça se passe bien.
Qu'est-ce qu'il en est du corps professoral maintenant, M. Lacourse? La pénurie d'enseignants, est-ce qu'on y échappe ou est-ce qu'on n'y échappe pas ici?
Bien, je serais menteur de vous dire qu'on y a échappé. Mais par contre, le travail qu'ont fait nos ressources humaines, là, que je dois saluer hautement, a fait en sorte que le portrait présentement est très positif. Il nous reste quelques postes de façon générale, là, que ce soit dans les employés de soutien, services de garde ou enseignants à combler, qui ne sont pas nécessairement des postes à temps plein. Mais le dernier portrait là, que j'avais était très positif versus quand je suis arrivé à la rentrée là, au 7 août, là, où là, c'était un peu plus alarmant. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre processus d'affectation débute dès le mois de janvier où il y a toute une opération qui se fait dans les écoles pour déterminer la clientèle qui s'en vient en fonction des nouveaux programmes qu'on voudrait mettre de l'avant. Et ça nous amène jusqu'au mois d'août là où on est dans les derniers milles là, pour faire les derniers ajustements, s'il y a eu des déménagements, s'il y a eu des mouvements de clientèle à l'intérieur des écoles. Des fois, là, on a des jeunes qui prennent des cours d'été, puis ça peut venir, selon les résultats au mois d'août, venir changer la donne un petit peu.
Très rapidement, trop rapidement, il y a un projet qui fait beaucoup jaser, un projet pour la prochaine année scolaire, pas celle-ci, là, d'accueillir des élèves des 5 années du secondaire dans les 2 polyvalentes en fonction de différents programmes particuliers répondant à leurs intérêts et à leurs besoins. Où est-ce que c'en est, ça, ce projet-là?
En fait, on est au début des consultations. Au mois de juin dernier, on a rencontré les 2 équipes écoles sur une base volontaire, les gens qui voulaient venir nous rencontrer, pour leur expliquer la vision de ce qu'on avait pour le centre de service scolaire de Sorel-Tracy, de façon à mieux répondre à la clientèle de 1 à 5 dans 2 établissements, de mettre en place des services qui seront complémentaires, donc éviter de la compétition à l'interne. Et donc, on a fait une première rencontre avec les enseignants et le processus va se continuer tout au long de l'automne. Là, il y aura des consultations auprès de la population aussi.
Très bien. Monsieur Lacourse, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien.
Monsieur Rochon.
Merci. Bonjour.
Au revoir.
Jean-Bernard Raymond, maintenant, est député de Richelieu à l'Assemblée nationale. Il est aussi adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, volet éducation préscolaire, primaire, secondaire et formation professionnelle. Bonjour, M. Raymond.
Bonjour, M. Rochon.
Vous vous montrez toujours très prudent dans vos déclarations. Il ne m'en revient aucune, Jean-Bernard, qui ait pu semer la controverse. M. Dreyville a moins de retenue. Il a une personnalité bien différente de la vôtre. Comment vous parvenez à vous accorder?
Ah, bien écoutez, j'ai une relation tout à fait franche et cordiale avec M. le ministre. Vous l'avez dit, je pense que chacun a sa propre personnalité. De mon côté, on se connaît assez, Sylvain, vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les déclarations. Ben, en même temps, j'ai le micro un petit peu moins souvent sous la bouche pour des commentaires.
Oui, qu'un ministre, ben oui, c'est sûr. Vous avez annoncé plusieurs investissements ces dernières années en termes d'infrastructures. Au nombre de ces investissements-là, il y a le pavillon agrandi de l'école d'Yamaska qui sera inauguré dans quelques jours.
Oui, tout à fait. L'inauguration du nouveau pavillon de l'école primaire de Yamaska aura lieu le 15 septembre prochain, si je ne m'abuse. Un très beau projet. J'ai très hâte que les médias, mais également la population puisse voir, puisque les cours s'y donnent déjà. Mais c'est vraiment magnifique ce qui a été fait. Et c'est un projet qui était attendu depuis longtemps par la communauté, puisque l'école primaire qu'elle vient remplacer ben, ne répondait plus aux exigences, entre autres en matière de sécurité. Là. Vous êtes déjà passé par là très souvent, Sylvain. Hein? Une école primaire sur le bord de la 132, c'était...
Dans une courbe dangereuse.
Ouais, voilà, ouais. Tout à fait.
Un autre investissement à Sorel-Tracy, celui-là, 14,2 millions pour refaire le revêtement extérieur de l'école secondaire Bernard-Garry-Épi. Ça a été annoncé quoi, en mars 2022, de mémoire. Où est-ce que c'en est? Est-ce que ce sera entrepris bientôt?
Oui, les travaux préparatoires, c'est-à-dire les équipes, les infrastructures du centre de services scolaires que j'ai rencontré à quelques reprises, ont fait cheminer le projet. C'est une amélioration de l'enveloppe structurante de l'école secondaire Bernard Gaslépy, qui va amener davantage de fenestration, si j'ai bien compris, qui va permettre d'assurer une pérennité à cet établissement d'enseignement secondaire. Là, je ne vais pas vous cacher qu'on est dans une période de surchauffe au niveau de la construction, mais les équipes font un travail remarquable pour être capables d'attacher tous les fils afin que les travaux puissent s'entreprendre le plus rapidement possible.
On voit des ouvriers travailler à l'enveloppe extérieure d'autres écoles. Je pense à l'école La Plume, notamment sur la rue Cardin à Tracy.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs écoles de la région qui ont bénéficié dans les dernières années et qui vont continuer de bénéficier de travaux d'amélioration, d'aménagement. Vous avez parlé d'enveloppe extérieure, c'est vrai, mais également, on a annoncé des projets pour l'amélioration des cours d'école, entre autres à l'école Christ-Roi, Marie-Dorothy et Saint-Jean-Bosco. C'est des projets qui vont permettre d'assurer que les aménagements vont permettre une utilisation optimale dans toute saison, hein, été comme hiver, avec une variété d'activités et de jeux pour les jeunes.
J'en entends dire, j'ai une bonne ouïe, c'est du béton que du béton, M. Aymon. Ce qu'il faut, c'est investir dans l'enseignement, c'est toujours ce que j'entends dire, là, il me semble. Mieux appuyer celles et ceux qui font ce métier, donner envie à des gens d'étudier pour mener cette carrière-là, soutenir les élèves en difficulté. Est-ce que vous estimez que votre gouvernement en fait suffisamment sur ces plans-là?
Écoutez, en question d'éducation, le premier ministre l'a dit, on en fait une priorité. Beaucoup de choses ont été faites dans les 4-5 dernières années et beaucoup reste à faire encore. Là. C'est un grand chantier. On a valorisé la profession d'enseignant avec des conditions et des améliorations de leurs conditions de travail. Mais bien entendu, puis on entendait M. Lacourse, hein, le DG du Centre de services scolaires, qui parlait du travail colossal que doivent faire les ressources humaines pour venir à bout d'attacher les fils dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre. Moi, il y a une statistique qui me réjouit, c'est qu'on a observé une augmentation substantielle des inscriptions dans les facultés d'éducation des universités québécoises. C'est-à-dire que on peut s'attendre, la relève est en train de se former, il y a des bras qui vont venir prêter main-forte dans les prochaines années. On a également mis en place des mesures incitatives au niveau fiscal pour inciter des retraités qui veulent venir donner un coup de main. Et ça a fonctionné quand même relativement bien. Des mesures d'aide à la classe qui ont été annoncées dans la région, là, on a 4 projets pilotes à l'école La Plume, au Petit Bois, l'école Martel et au 80. C'est un projet qui vise à déployer des ressources d'aide à la classe dans les établissements. Ça vient valoriser la mission du personnel enseignant parce que ça leur permet de faire ce pour quoi ils sont formés, c'est-à-dire d'enseigner.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Aymon. Merci.
C'est un plaisir. À très bientôt.
Merci. À bientôt. Jasmin Bibot est transporteur scolaire propriétaire des autobus Bibot Diamasca. Bonjour, Jasmin.
Bonjour. Ça va?
Oui. Il y a combien de temps aujourd'hui qu'avec ton équipe, tu fais métier de transporter nos enfants à l'école?
Moi, j'ai commencé j'ai été étudiant en même temps, là, en 81. Alors, proche 42 ans là, dans ce bout-là. Et on a un de nos vieux chauffeurs, là, si on peut dire, dans le sens du métier, M. Pierre Leroux, dit Toasté, à Saint-Anne-de-Sorel. Il a 62 ans de service.
C'est le monsieur qui prend sa retraite, là.
C'est ça.
Et là, 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 là.
Hey, chapeau.
Dis donc, c'est une flotte de combien de véhicules, les autobus Bibot?
Pardon?
C'est une flotte de combien de véhicules, les autobus Bibot?
Autobus Bibot, depuis 2 ans, je suis à 12 véhicules à contrat avec le centre de service scolaire.
Combien de chauffeurs, chauffeuses?
Des conductrices et conducteurs. J'en ai 13 avec Spire, là, qu'on appelle. Mm-hmm. Puis je desserre Saint-David, Yamaska. Une partie de Sorel qui est Maria Goretti et Saint-Anne-de-Sorel.
Est-ce qu'il y a plus de conductrices que de conducteurs ou est-ce que c'est l'inverse?
Oui, c'est plus de conductrices. De toute façon, ça a été une tendance. Puis c'est une tendance. La maman est toujours plus... c'est plus facile pour elle on dirait, de s'adapter à aux jeunes. Puis ça. Puis,
tu me confies.
J'ai plus les ceux qui viennent comme conducteurs, c'est plus des gens à la retraite, des hommes.
Tu me partageais en novembre 2021, Jasmin, le casse-tête que ça représente de trouver des conducteurs et conductrices d'autobus. Il y a même eu à l'occasion des bris de service. Qu'en est-il aujourd'hui de ça?
Nous, à Sorel-Tracy, je pense que ça va bien. Mais touchons du bois un peu, mais les quatre compagnies qu'on est, M. Joyal, M. Jutras à Saint-Robert, M. Gendron à Saint-Roch, moi, M. Joyal qui dessert Sorel-Tracy au complet, là, c'est un des. Lui, c'est le plus gros transporteur. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile pour lui, mais en fin de compte, avec les bonnes conditions qu'on a, on essaie de s'améliorer d'année en année. On écoute nos chauffeurs, nos conducteurs, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis quand on est capable, on vient de signer un nouveau contrat de 6 ans avec le centre de service scolaire. Puis ça va bien. C'est sûr que ça pourrait aller mieux. Le gros problème du transport scolaire qui s'en vient, c'est l'électrification. Ça nous a été mis un peu sans
vous consulter trop.
Un peu d'embauche, ouais, c'est ça. Sans trop nous consulter. Et puis là, on vit avec ça. On essaye de nager pour que ça marche, mais le véhicule n'est même pas prêt, il n'est même pas fiable. OK? Fait que là, la nouvelle génération qu'on a su par Girardin autant que Lyon, parce qu'il y a deux compagnies au Québec qui vont nous fournir seulement, Autobus Girardin de Drummondville et Autobus Lyon. Et puis...
De Saint-Jérôme.
Saint-Jérôme, oui. Mmh. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais là, on essaie toujours des nouvelles générations, la batterie, ça va être mieux. Mais encore là, nous, en campagne, c'est plus difficile. L'autobus, il faut qu'elle s'amène au garage parce que pour la brancher le soir. En fait, le conducteur qui l'avait chez eux, ça nous donnait des meilleures conditions pour le conducteur.
Ah, ouais, je comprends. Jasmin, c'est déjà tout le temps que nous avons. Je te remercie beaucoup, Jasmin Bibeau.
Mais ça me fait plaisir.
Merci. À la prochaine. À la prochaine.
Merci.
Après la pause, on va parler à Martine Simard, Simon Ménard et Lisette Trépanier. À tout de suite.
C'est l'anniversaire d'un de vos proches. Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section « C'est ta fête » du CJSO.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux.
Une présentation du Cinéma Saint-Laurent, d'Azimut Diffusion, de William G. Waters Saucissier et d'IGA Extra Marché Tellier Sorel. Jusqu'au 27 septembre, savourez les rabais Whirlpool chez Meubles André Beaulieu. Achetez 2 électroménagers de cuisine admissible, économisez 200 $ additionnels. Achetez 3 électroménagers de cuisine admissible ou plus, économisez 300 $ additionnels. Profitez également d'un rabais additionnel de 100 $ à l'achat d'une laveuse et d'une sécheuse Maytag. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Martine Simard est directrice générale du groupe populaire en alphabétisation L'Ardoise. Bonjour Martine.
Bonjour Sylvain.
La rentrée scolaire s'est effectuée il y a donc quelques jours, là, au primaire et au secondaire. Est-ce qu'il y a à L'Ardoise un calendrier scolaire assez semblable avec de grandes vacances là, tout l'été?
Mais il y a effectivement un ralentissement des activités pendant la période estivale. Les ateliers de groupe sont suspendus, puis il y a seulement le service individuel qui fonctionne 2 jours par semaine. Mais c'est pas pour faire comme le milieu scolaire, là. C'est vraiment une question de budget, je vais le dire comme ça. L'Ardoise le préférerait de loin pouvoir continuer à offrir 100% de ses services, mais actuellement, financièrement, c'est pas possible. On se fait souvent dire « Ah, vous êtes chanceux à l'Ardoise, vous êtes en vacances tout l'été, c'est cool », alors qu'en réalité, on est au chômage à 55% de notre salaire.
Ouais, c'est moins rose en effet. Qui, Martine, fréquente l'Ardoise? Qui fréquente votre groupe populaire en alphabétisation? Quel est l'âge moyen là, des participants? De quel milieu viennent-ils?
Les participants, leur doigt dans le fil, là, c'est, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue, ça peut être un ami ou un membre de la famille. Ce sont des personnes qui rencontrent des grandes, grandes difficultés avec la lecture, l'écriture, l'utilisation des technologies numériques. C'est des adultes qui peuvent venir ici à partir de l'âge de 16 ans, mais actuellement, là, il y a une moyenne d'âge là, plutôt dans la cinquantaine, mais ça varie entre 30 et 70 ans. Puis, c'est des personnes qui sont très, très éloignées du marché du travail, puis même d'un potentiel retour aux études, là. C'est des gens qui viennent de milieux presque exclusivement, là, de milieux socio-économiques très défavorisés.
Ah, j'allais justement vous demander, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la pauvreté et l'analphabétisme?
Oui, la pauvreté et l'analphabétisme sont étroitement liés. C'est pratiquement impossible de les dissocier, là. Un étant à la fois cause et conséquence de l'autre. Quand on sensibilise à la problématique de l'analphabétisme, inévitablement, on traite aussi de la pauvreté.
Quels souvenirs celles et ceux qui fréquentent l'ardoise ont de leurs années d'école? Est-ce que ce sont majoritairement de mauvais souvenirs qu'ils en gardent?
Oui, majoritairement mauvais, pour toutes sortes de raisons, dont la pauvreté. Ils ont connu là, vraiment beaucoup d'échecs, ils ont vécu du rejet, de l'exclusion lorsqu'ils ont fréquenté l'école. Pour eux, ça aurait été une expérience traumatisante, malheureusement.
On ne fonctionne pas du tout à l'ardoise sur le modèle de l'école, hein?
C'est ça. À l'ardoise, on privilégie les animations à l'enseignement. La personne est vraiment placée au cœur de sa démarche. On encourage la participation citoyenne et le développement de l'autonomie. Les animations sont vraiment construites autour du vécu de la personne. Puis, on a des priorités indépendantes de l'éducation publique. Puis, un autre point vraiment important, c'est que les lieux d'apprentissage se trouvent à l'extérieur des lieux d'éducation formelle. Là, ça se passe pas à l'école. On valorise beaucoup les échanges de savoir, les relations égalitaires. Puis, avec cette approche-là, on contribue à sensibiliser sur les causes pour créer un changement social.
Ce qu'on apprend chez vous, c'est à lire et à compter?
Oui. À l'ardoise, l'apprentissage ou la consolidation là, de la lecture et de l'écriture, ça devient un outil d'expression sociale et de reprise de pouvoir sur sa vie. Ça devient le prétexte pour faire tout le reste.
On apprend aussi à l'ardoise à s'intéresser aux affaires publiques.
Oui, on s'intéresse à des enjeux qui concernent la réalité des personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. On contribue à lever les obstacles à la participation citoyenne. On s'implique quand il y a des consultations publiques. On assiste au conseil de ville. On développe avec les participants là, une analyse critique et sociale des différents enjeux. Les participants peuvent, de cette façon-là, eux-mêmes contribuer au changement social souhaité en pouvant s'exprimer sur des enjeux qui les concernent directement, puis en proposant des solutions qui répondent à leurs besoins.
Comment les groupes sont organisés? Est-ce que c'est en fonction des acquis?
On fonctionne plutôt là en petits groupes qu'on appelle multiniveaux. On fait pas vraiment de distinction là entre les acquis de un et les acquis de l'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les forces de chacun, puis on part plutôt du principe de répondre aux besoins des participants en lien avec leurs intérêts pour consolider les acquis.
Vous avez une page Facebook, puis vous avez un site Internet?
Oui, page Facebook, site Internet, lardoisegpa.org, qui est entièrement audible. On peut écouter les textes plutôt que de les lire.
Merci beaucoup, Martine Simard.
Merci, Sylvain.
Merci, Martine. Merci. Simon Ménard est propriétaire de Photos Repensées. Bonjour, Simon.
Bonjour, M. Rochon.
J'ai souhaité que tu sois de l'émission aujourd'hui pour cette petite entreprise de moins en moins petite que tu diriges et qui a fait des photos scolaires son fer de lance. Tu es actuellement au Collège Saint-Paul à Varennes.
Est-ce que c'est, oui, exactement.
Est-ce que c'est l'une des maisons d'enseignement qui a recours à vos services, ça?
C'est l'une qui participe à nos activités depuis déjà 6 ou 7 ans. Je ne compte plus trop les années. Ça fait notre 14e année, moi, c'est ça qu'on opère.
Vous desservez pas moins de 180 écoles réparties dans plus de 24 centres de services scolaires au Québec. C'est impressionnant.
Ça fait des beaux chiffres à dire. Hein? En progression, doucement, d'année en année, ouais, on accumule, on accepte de plus en plus parce que gérer une expansion, c'est ce qui est le plus fragile, je pense. Puis on a beaucoup de demandes. On fait que le bouche à oreille. Qui fait notre publicité. On n'a pas fait de publicité pour ça. Je pense qu'il y a une méthode qui porte fruit, qui est acceptée quand elle est comprise par les institutions, par les professeurs, par les parents. On essaie de porter ça un peu vers quelque chose d'éducatif, j'ose le dire maintenant. Alors, en tant qu'à faire de la photo dans les écoles, pourquoi pas laisser une trace puis un bon souvenir.
Oui, votre mandat là, pour la rentrée 2023, photographie un peu plus de 60 000 élèves. Je continue avec les chiffres parce que...
Oui.
Non, mais ils parlent, vos chiffres, là. Ils sont impressionnants. Plus de 60 000 élèves répartis sur un territoire qui s'étend de La Colle jusqu'à Kamouraska.
Oui, principalement centré quand même dans la ville de Québec, la ville de Lévis et la rive sud de Montréal. Ça fait beaucoup de monde, j'avoue. Ça fait beaucoup de fichiers à donner. On est quand même bon pour remettre les photos à temps à tous ces gens-là. On commence à avoir une belle expérience, une belle équipe à Sorel dans nos bureaux qui fait la coordination de toutes les centaines de milliers de photos qu'on reçoit.
Justement, de quelle équipe vous disposez pour photographier 60 000 élèves? Je pense juste aux photographes, là, puis à l'assistant photographe, là, ça en prend là, un puis un autre.
Oui, c'est sûr qu'un gros de mon travail, c'est de recruter et de former ces beaux gens-là. J'ai une vingtaine de photographes cette année qui accomplissent de la tâche. Peut-être une 7-8 photographes, parce qu'il est en plein temps partiel, autour de l'équipe que j'appelle de Montréal, étant celle de la Rive-Sud, pour la différencier de celle de l'équipe de Québec, qui sont 13 photographes cette année. C'est ça, ça prend ces gens-là accompagnés souvent d'assistants pour aider à alléger leur tâche en classe, puis leur laisser tout le temps pour se concentrer sur les portraits qu'ils ont à faire.
Bon, justement, là, il y a tout un travail dans la classe avant la photo. Photo repensée, ça s'appelle pas photo repensée pour rien, là.
Non, c'était une idée, presque un titre de travail du début, qui a trouvé son sens, puis on l'a gardé, parce que on ne s'est pas inspiré du tout de ce qui se faisait avant, mais plutôt de comment, du pourquoi que la photographie scolaire existe, puis de notre présence dans une école. Donc, les photographes vont faire des portraits dans les classes des étudiants. On était dans les premiers un peu à aborder ça parce qu'on n'a pas pris le modèle, comme je vous disais. Puis on donne un petit cours de photo ou sinon qu'on parle de photographie aux enfants pendant 5 minutes et c'est un prétexte pour se faire connaître. C'est pas ça qui est le but éducatif, mais plutôt de mettre les élèves dans une condition peut-être idéale ou plus idéale possible pour se faire photographier, d'être relax, d'avoir... plusieurs poses. On offre jusqu'à 6 portraits par élève, donc on va prendre jusqu'à presque 25 à 30 clichés par élève pour obtenir des résultats. Donc, un peu, le mandat, c'est d'apprendre aux élèves à être devant une caméra plutôt que juste paraître avec un sourire sur commande, peut-être. Donc, on peut avoir des attitudes, on peut avoir de l'aisance, on peut avoir des yeux complices, on peut avoir différentes jeux qui se créent avec le photographe. On se donne juste cette opportunité-là en se donnant jusqu'à 2 minutes de temps passer avec chaque élève.
C'est très intéressant. Puis on l'imagine, là, il y a tout un travail aussi après la photo, là, infographie, imprimerie, commande en ligne, paiement, livraison, toute la logistique, c'est considérable.
C'est beaucoup plus important comme travail en quantité que celui de prendre la photo en quantité de travail. Oui, c'est énorme. Surtout que nous, toutes ces photos-là, on les prend, on les va pas, comme on dit, les calibrer, faire la calibration de l'ajustement des couleurs, comme on fait un travail en lumière naturelle. Je ne veux pas être trop technique, là, mais pour figurer que chacune des photos doit être triée et traitée individuellement sur la quantité. C'est un énorme travail qui doit être fait en post-production, alors qu'on pourrait tout simplement mettre 2 flashs et calibrer ça d'un seul coup, mais je ne crois pas que ça serait très adapté à notre principe. Donc, on se donne la peine de faire un travail colossal ensuite, mais les gens, vraiment, là, j'ai des employés qui prennent ça à cœur, qui regardent chacune des photos. Comme c'est des enfants, puis on les met à l'aise, je pense qu'ils aiment ça aussi, parce que on se tanne pas de voir des enfants. On se tanne pas de voir ces expressions-là, le travail du photographe. Donc, c'est pas très barbant. C'est pas un travail à la chaîne ordinaire. Il est divertissant quand même.
Ouais, tant mieux. Alors, bravo beaucoup. Bravo, Simon Ménard. Bravo à cette entreprise de chez nous qui s'est installée sur 2 étages, là, au 187 rue du Roi, pour ajouter à ses activités une division d'impression sur objet, des tasses, des aimants, des porte-clés, des tapis de souris. Merci beaucoup, Simon.
Ah, bien, c'est un plaisir. Puis merci à vous de me donner l'opportunité de m'exprimer.
Le plaisir fut pour nous. Bye.
Salut. Bye.
Lisette Trépanier est présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Bonjour, Mme Trépanier.
Bonjour, M. Rochambe.
Dites-moi, est-ce que vos membres étaient heureux de réintégrer leurs fonctions? Étaient-ils reposés? Sont-ils reposés d'attaque?
Ben, je pourrais dire que oui. Je pense que les gens ont encore leur métier à cœur. Après l'été, ils sont prêts.
Quel est l'état des lieux, Lisette Trépanier, à la rentrée scolaire 2023? Est-ce que les effectifs sont en nombre suffisant? Je pense aux profs, aux professionnels en appui, au personnel de soutien.
Écoutez, après l'affectation là, qui a eu lieu en début d'année pour nos précaires, il restait 60 postes non comblés, si je me souviens bien. On me dit que présentement, il reste un poste d'anglais à pourvoir, mais qu'on a trouvé des noms légalement qualifiés, évidemment. Un coup que tous les gens qui ont étudié en éducation sont sur une chaise, là. Il y a beaucoup de noms légalement qualifiés. C'est sûr que pour les enseignants qualifiés en place, c'est plus de travail, parce que veux, veux pas, ils vont donner un coup de main, ils vont aller aider, ils vont soutenir, ils vont expliquer comment le fonctionnement de l'école, le fonctionnement du photocopieur, ça finit plus, là. Dans une école, il y a tellement de choses à faire. Fait que c'est sûr qu'il y a une lourdeur pour les enseignants, mais on n'a pas le choix, on est pris dans ce système-là. Mais je pense que la seule chose qui pourrait faire en sorte qu'on ait à nouveau plus de légalement qualifiés, ben on s'assoit et on négocie avec le ministre. Il faut vraiment améliorer les conditions de travail.
Ben c'est ça, j'allais dire. Est-ce que le dénominateur commun des enjeux de pénurie et d'attraction, ce sont les conditions de travail?
Absolument. Le salaire, c'est sûr, toujours, mais les conditions de travail aussi.
Qu'entendez-vous par les conditions de travail?
Les enfants sont plus difficiles qu'autrefois. Il y a beaucoup plus de problèmes d'apprentissage. Il y a beaucoup plus de problèmes divers. Les classes sont donc plus difficiles. Moi, je pense qu'il y a trop d'élèves par classe, là, surtout quand on a beaucoup de jeunes qui ont des plans d'intervention spécifiques à leurs besoins parce qu'ils sont différents. Ça alourdit beaucoup les classes. Puis là, ce qu'on se fait dire, c'était, ben, on est en pénurie, on peut pas alléger les classes, mais il va falloir passer par là à un moment donné pour rendre la tâche enseignante agréable comme elle l'a déjà été, pour faire en sorte que les jeunes restent, parce qu'il y en a encore beaucoup qui quittent en dedans de 5 ans, même s'ils ont fait des sacrifices pour aller chercher un bac en éducation. Et il faut passer par l'amélioration des conditions de travail absolument pour que les gens recommencent à avoir le goût de venir en éducation et d'y rester. Les gens qui partent à la retraite plus tôt aussi, c'est une fatigue chronique qui est cumulée parce que la tâche est lourde de plus en plus. Si on veut que les gens y restent plus longtemps avant la retraite, bien, ça passe aussi par les conditions de travail.
Le projet de loi 23, là, déposé par le ministre Drainville en mai, il répond ou il répond pas aux priorités du réseau de l'éducation?
Moi je pense pas qu'il améliore la tâche avec ce projet de loi-là.
Alors, le signal d'espoir que pourrait envoyer au réseau le gouvernement, ce serait lequel, Mme Trépanier? Comment pourrait-il vous prouver que l'éducation est toujours une priorité au Québec?
Bien, faudrait nous écouter. Faudrait écouter les gens à la table de négo qui nous représentent. Faut écouter les enseignants. Faut arrêter de faire des comités où il n'y a presque pas de profs pour régler le problème de l'éducation. Les enseignants, c'est les principaux acteurs. C'est eux qu'il faut écouter pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. Nous, au niveau de la FSE, de la CSQ, on fait des sondages, on va consulter nos enseignants là pour après dire, ben voilà le message qu'on va porter. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement apprenne à écouter ses enseignants aussi.
Très localement, est-ce que votre syndicat a pris position sur le projet du Centre de services scolaires d'accueillir en septembre de l'an prochain les élèves des 5 années du secondaire dans les 2 polyvalentes en fonction des programmes particuliers?
Nous, on n'a pas été consultés en tant que syndicat. Les enseignants, de leur dire, ont eu une consultation très légère. C'est annoncé en fin juin, à un moment de l'année où les enseignants sont fatigués, ce qui a fait qu'ils n'ont peut-être pas réagi à la hauteur de ce qu'ils auraient voulu. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Moi, j'entends plein de contre et de pour, mais je pense qu'on aurait dû jaser avec nous. Des fois, le syndicat, il peut avoir des bonnes idées et consulter vraiment les enseignants. Il y a quelques années, quand ça s'est fait, de mettre les secondaires qui débutent à BG puis les autres à FL, il y avait eu une grosse consultation avec le syndicat. Tout le monde était au courant. Écoutez, ça a été annoncé au mois de juin puis je savais même pas qu'on allait annoncer ça. Fait que je pense qu'on veut peut-être aller trop vite. Qu'il faudrait vraiment, encore une fois, comme je disais tantôt, prendre le temps de vraiment consulter les enseignants, de prendre vraiment le pouls des pour, des contre avec eux, d'en jaser. Ça presse pas d'aller vite puis d'aller finir vite un projet. Je pense qu'il faudrait prendre du temps pour être certain, si c'est fait, de le mener à bien et de peut-être pas le faire si on se rend compte que ça marchera pas, là.
Merci beaucoup, Lisette Trépanier.
Bien, merci à vous. Bonne journée.
Merci. Après la pause, dernier segment de l'émission avec Sylvie Ouellette, Louis-Philippe Paulet et Stéphanie Laplante, une maman qui a décidé de faire l'enseignement à ses enfants à la maison.
Hein, Lauriane, je pensais pas te croiser dans les surgelés. T'es toujours chez Azimut Diffusion?
Ben oui, ça arrête pas avec tous les spectacles qui s'en viennent. Les week-ends sont occupés au Marché des Arts des Jardins.
Ah oui, justement, je voulais venir voir un spectacle.
Ben, on a des événements en théâtre, danse, jeune public, art de la parole, musique.
Moi, je trippe vraiment sur l'humour et la chanson.
S'il faut que je te nomme tout ça, mon épicerie va dégeler. Mais on a la chronique d'Azimut Diffusion à CJSO les mercredis à 8h15.
Ah, pendant Yatsé Matin avec Alex Trudel? Ben oui, je vais être au rendez-vous.
Quand on parle de robustesse, il n'y a pas de deuxième meilleur. Si vous voulez un camion qui offre de la puissance, des capacités et de l'innovation, il n'y a pas de substitut. Il y a juste le Ford F-150. Louez le F-150 XLT 2023 avec moteur EcoBoost de 3,5 litres, les ensembles 302A et Décor Sport pour 299 $ aux deux semaines sur 24 mois. L'offre se termine le 2 octobre. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca pour les détails. Valeur de 64 537 $ à compte de 5 750 $.
Jusqu'au 27 septembre, savourez les rabais Whirlpool chez Meubles André Beaulieu. Achetez deux électroménagers de cuisine admissible, économisez 200 $ additionnels. Achetez trois électroménagers de cuisine admissible ou plus, économisez 300 $ additionnels. Profitez également d'un rabais additionnel de 100 $ à l'achat d'une laveuse et d'une sécheuse Maytag. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Sylvie Ouellet est coordonnatrice de Centraide Opération Septembre au Centre d'action bénévole du Bas Richelieu. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvain, bonjour.
On dit que l'école est gratuite, c'est pas tout à fait le cas. Je voyais sur Facebook des publications de parents qui consternés du coût du matériel scolaire ou de la surveillance sur l'heure du midi. Centraide Opération Septembre a allégé cette année le fardeau de combien de parents dans la région et l'a allégé comment ce fardeau-là?
Oui, ben en fait, on a 140 familles, donc 260, ça fait aux alentours de 265 jeunes qui sont inscrits au programme Opération Centraide de septembre de cette année 2023. Donc, comment on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est qu'on paye les frais scolaires, mais on enlève justement tout ce qui est les frais reliés aux services de garde, reliés aussi aux frais du midi, de la surveillance, de l'autobus. Mais ça l'enlève quand même un fardeau parce qu'on paie à peu près 200 $ là, par élève quand même. Là.
Est-ce qu'il y a, Sylvie, une corrélation entre pauvreté et résultats scolaires?
Ben oui, tout à fait, parce que si, un exemple, là on parle d'Opération Septembre, on va parler aussi des déjeuners écoles que le CAB offre aussi. Donc on le sait que pauvreté égale la faim, on a faim, on mange moins, donc ça fait que les résultats scolaires en découlent directement. Aussi, on a toujours, la famille a toujours peur de manquer d'argent, a toujours peur d'avoir quelque chose, de ne pas manger à leur faim, quoi que ce soit. Donc c'est sûr que ça a des répercussions directement sur les résultats scolaires.
Bon, ben parlons justement plus en détail des déjeuners écoles. Comment s'articulent-ils ces déjeuners? Puis ils sont offerts à combien d'enfants, là?
Ils sont offerts à 216 enfants au total. C'est sûr que, dans le fond, les déjeuners écoles, c'est les jeunes du primaire qui sont visés par ce service-là. Mais on s'entend que dans les 149 enfants qui sont d'âge scolaire primaire, il y a aussi la fratrie. Donc, on compte à peu près 67 jeunes étudiants qui sont de l'école secondaire. Donc, ça fait un total de 216 inscriptions. Et avant la COVID, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des bénévoles qui se présentaient dans les écoles où est-ce qu'il y avait un local, justement, pour servir des déjeuners écoles aux enfants. Mais depuis la COVID, on a réinventé et, dans le fond, on a des bénévoles qui vont livrer directement à la porte des déjeuners pour toute la semaine. Donc, c'est pour ça qu'on inclut maintenant aussi la fratrie dans nos statistiques.
À la porte, tu veux dire à la porte du domicile de l'enfant?
Exactement, exactement. Donc, à chaque semaine, le bénévole va porter une boîte de dépannage pour des déjeuners. Donc, peut avoir toutes sortes de choses. Des fois, ça peut être des céréales, vraiment toutes des choses. On essaie d'avoir des choses variées, mais surtout différentes et santé aussi. On vise les déjeuners santé.
Ah oui, ben, je dois déjà te remercier. Merci beaucoup, Sylvie Ouellet.
Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir.
Merci. On va maintenant parler au président du syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de Sorel-Tracy, Louis-Philippe Paulet. Bonjour, Louis-Philippe.
Bonjour.
Les trois syndicats du cégep, syndicat des enseignants, syndicat des professionnels, syndicat des employés de soutien, rencontraient la presse fin 2022, là, de mémoire, souhaitant alerter l'opinion publique relativement à une crise de confiance qui, disait-il à l'unisson, là, ébranle l'institution d'enseignement. Bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Je pense notamment à la démarche vers un plan d'action annoncé en mai par le conseil d'administration, démarche pilotée là, par un comité issu du conseil avec une firme externe. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des choses?
Bien, considérant que là, en ce moment, la directrice générale en poste est en congé, l'intérim est assuré par Mme Catherine Boulanger. Puis ça, c'est une personne ben, qui est au collège là, depuis plus d'une vingtaine d'années puis qui est respectée de tous. On respecte beaucoup là, sa probité intellectuelle, sa façon d'aborder les choses, le respect qu'elle a pour les gens, son écoute. Essentiellement, là, il ne pouvait pas, je pense, y avoir de meilleures personnes pour prendre le relais à ce stade-ci.
Hé là là, ben là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est une nomination alors qui est propre à apaiser les tensions, à calmer la grogne.
Ben oui, tout à fait, mais c'est ce qui était souhaité, on va se le dire, là. Puis c'est extrêmement positif, en tout cas en ce début de rencontre, en début d'année plutôt. Puis aussi, ben, ce qu'on a appris, nous, un peu au courant de l'été, là, c'est que le ministère là, qu'on considérait, là, ben, va accompagner d'une manière là, très, très serrée là, le cégep là, dans ses démarches là, visant à rétablir un bon climat de travail. Mais essentiellement, c'est un exercice qui est extrêmement complexe, mais ça, on a besoin de la bonne personne pour qu'on ait confiance dans le processus. Puis Mme Boulanger, je pense qu'elle fait probablement l'unanimité là, pour relever ce défi-là.
Eh bien, un cégep croît ou décroît, le verbe croître, en fonction de la population étudiante qui l'accueille. Quelle est la santé d'une autre à cet égard? On a entendu les chiffres, je sais pas, vous étiez peut-être pas à l'écoute là, de Mme Boulanger, justement. Mais vous, est-ce que vous croyez qu'il y a à craindre pour la survie de certains programmes?
Bien, c'est sûr que n'importe quel programme a besoin d'étudiantes et d'étudiants. Fait que, à ce compte-là, tu sais, il y aura toujours un risque qu'un programme devienne un peu moins populaire au fil des années. Puis ça, on a eu de mauvaises expériences. Pas souvent, mais c'est toujours quelque chose qui peut arriver. Mais les cégeps sont quand même dans une situation là, d'explosion démographique, là, surtout en Montérégie. Puis nous, ben, essentiellement, ben, on va chercher de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants chaque année qui proviennent de l'extérieur. Ça vient compenser peut-être là, les baisses qui sont liées là, à la démographie de Sorel, à proprement parler.
D'accord. La pénurie d'enseignants, je vais rapidement, la pénurie d'enseignants et de professionnels, est-ce que c'est aussi un phénomène qui affecte les cégeps? Parlons d'une autre en particulier.
Oui, ça touche. Pour certains programmes, c'est pire que d'autres. Là. Évidemment, là, on fait toujours la comparaison des conditions au secteur privé versus le public. Donc, là, lorsqu'on a besoin de profs ingénieurs, par exemple, c'est sûr que la rémunération est plus intéressante au privé. Donc, là, ça, c'est plus difficile, bien que ce ne soit pas impossible. Aussi, quelque chose qu'on voyait pas avant, là, mais c'est que lorsqu'on offre là, vraiment des appelle là, des queues de tâches là, qui sont inintéressantes là, au niveau de la rémunération globale, là, si on vous dit vous avez 22 % de tâches cette année, ben tu sais, c'est pas des tâches là, qui sont intéressantes. La personne doit combiner avec d'autres tâches, peut-être dans d'autres collèges ou avec un autre emploi, tout simplement. Mais avant, on réussissait quand même à combler ça. Là, lorsqu'on offre quelque chose qui n'est pas un temps complet, là, ça devient vraiment un défi là, de pouvoir recruter à ce moment-là. Là.
Ben merci beaucoup, Louis-Philippe Paulet. On aura sûrement l'occasion de se reparler. Merci, Louis-Philippe.
OK, fait plaisir. Bye-bye.
Bonjour. On termine cette émission avec une maman qui a fait le choix de faire l'école à la maison à ses enfants. Stéphanie Laplante est au bout du fil. Bonjour, Stéphanie.
Oui, bonjour, M. Rochaud.
Combien d'enfants avez-vous?
Deux, un garçon et une fille.
Et ce choix de leur faire l'école à la maison, est-ce qu'il remonte au tout début de leur scolarisation ou ils sont déjà allés à l'école l'un et l'autre?
Ma fille a fait la maternelle et la première année. Mon garçon a seulement fait la maternelle. Le début de l'école à la maison s'est fait pendant la pandémie et on a décidé de continuer par après.
Pourquoi avez-vous pris cette décision de faire l'école à la maison? Quelles sont vos motivations?
Mon fils est TDAH. Ma fille a des problèmes de langage, d'autres problèmes aussi. Donc l'école, ça n'allait pas pour eux. Donc, j'ai vraiment décidé de les garder avec moi. Et c'est notre quatrième année cette année et ça va super bien.
C'est un choix qui demande à être autorisé, ça parle le ministère. Il y a quelqu'un au ministère qui évalue si vous êtes apte à fournir l'enseignement puis un cadre propice à l'enseignement?
Oui et non. On a le droit de faire l'école à la maison à nos enfants. Par contre, on a quand même des documents à leur faire parvenir au début, à la mi et à la fin de l'année. Donc, on est quand même surveillé pour qu'on puisse faire, qu'on leur apprenne ce qui doit être appris tout au long de l'année.
Ça prend, je présume, beaucoup de discipline, un horaire assez strict parce que, corrigez-moi si je me trompe, il faut passer à travers la matière. Vos enfants, ils n'échappent pas à la fin de l'année aux examens du ministère?
L'examen du ministère, non, mais à chaque année, donc ma fille l'année passée en quatrième année, elle a fait l'examen de quatrième année et mon fils va le faire cette année, il va avoir l'examen du ministère en sixième année, mais sinon on a le choix de faire un portfolio qui montre un portrait de ce qu'on a fait dans notre année. Il peut avoir aussi fait par un titulaire. Oui, c'est ça.
Ça vous a demandé à vous de mettre en veilleuse toute votre vie professionnelle?
Je ne travaillais pas, j'étais restée à la maison pour les enfants, donc ça ne m'a pas demandé d'arrêter le travail, mais c'est quand même beaucoup de travail pour moi avec la correction, avec préparer les activités, quelque chose qui peut plaire aux enfants, trouver ce que je veux leur donner, parce qu'il y a quand même beaucoup... De plateformes, de sites Internet qui offrent, mais il faut vraiment trouver le bon.
Ben en tout cas, vous avez du courage. Encore combien d'années là, d'école à la maison, Stéphanie?
Mes enfants ne veulent pas faire le secondaire à l'école, donc on ferait encore le secondaire à l'école à la maison.
Et là, là. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Trop bref, on aurait encore eu plein de questions à vous poser. Les gens, sûrement, à la maison s'en posent plein. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Merci, Stéphanie. Alors, merci à l'ensemble de mes invités. Merci à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. La semaine prochaine, on va faire un retour sur la saison touristique 2023. Bonne semaine, tout le monde.